sur France Culture, il est midi et demi. L'heure des informations avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La révolution de la banque en ligne, l'opérateur téléphonique Orange lance aujourd'hui sa banque mobile et gratuite. Précision et enjeux dans un instant avec Marie Viennot. L'auteur de l'attentat d'avant-hier à New York, il revendique son appartenance au groupe État islamique. Donald Trump réclame, lui, que lui soit infligée la peine de mort. On verra les derniers développements avec notre correspondant à New York, Marco Voltaire. Le jour du verdict au procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, qui a de nouveau clamé son innocence ce matin devant la cour d'assises contre rendu de Florence Turm. La crise catalane, l'audition des premiers dirigeants sécessionnistes devant le tribunal de Madrid et déjà à l'instant le parquet qui demande la prison pour 8 membres du gouvernement catalan destitués. On suit cette situation à Madrid avec Marie-Hélène Ballestero. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi qui est en visite pour la première fois dans l'ouest du pays, là où l'armée birmane est accusée par l'ONU d'épuration ethnique contre la minorité Rohingya. Analyse de Marie-Pierre Véraud. Et puis en France, le Conseil des ministres qui vient d'entériner de nouvelles règles pour l'octroi de la Légion d'honneur, ce qui se traduira donc par un retour au seul critère du mérite et par voie de conséquence par un nombre réduit de décorations distribuées. Commentaire d'Antoine Maret, nous en parlons avec notre confrère Jean-Dominique Merchet qui est auteur d'un livre intitulé « Macron Bonaparte » dans la dernière partie de la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Eh bien Antoine, merci. On a terminé avec notre invité de première partie, Hanif Kureishi, sur la question du multiculturalisme. C'est une question qui a occupé de nombreuses années Dominique Schnapper, notre invité de dernière partie, la sociologue qui publie « De la démocratie en France, République, Nation, Laïcité ».
Les opérateurs de téléphonie, comme la plupart d'ailleurs des grands groupes, misent dorénavant sur la diversification, parfois tous azimuts, de leurs activités. Exemple donc ce matin à nouveau, le numéro 1 français Orange, qui lance une banque en propre, qui va offrir à terme la gamme complète de tous les services financiers, avec l'ambition de conquérir 25% du marché, en pariant donc sur l'usage exponentiel des smartphones pour concurrencer les acteurs historiques. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
C'est une révolution, une banque mobile présente comme quasi gratuite, pas de frais d'ouverture ou de tenue de compte, la carte bancaire serait gratuite à vie. Quelle est donc d'abord l'économie de ce système ?
Mais pour le moment, Orange Bank est en phase de démarrage. Son modèle économique ne vise donc pas la rentabilité, mais l'attraction de nouveaux clients. Or, dans le secteur bancaire, cela coûte cher. On estime que le coût d'acquisition d'un nouveau client peut aller de 100 à 300 euros par client. Cela comprend les offres d'arrivée qui peuvent se compter en argent comptant, mais aussi tous les frais publicitaires pour se faire connaître. Alors pour Orange, ce sera sans doute moins cher car elle dispose déjà d'un fichier client qu'elle peut mobiliser, que c'est un acteur économique identifié par les Français. Or, la notoriété est une donnée essentielle. Vous n'iriez pas confier votre argent à un inconnu. J'ajoute qu'en en parlant comme d'autres médias, eh bien, nous faisons aussi connaître l'arrivée d'Orange sur ce marché. Oui, mais bon, voilà, en tout cas, nous participons à cette communication. Et pour le moment, en tout cas, de modèle économique, il n'y a pas à court terme. La gratuité totale n'a qu'un temps. Le temps d'attirer des chalands. Les experts estiment qu'il faut 10 à 20 ans pour qu'une nouvelle banque soit rentable. Cela dépend du nombre de clients qu'elle réussit à gagner. Il faut dépasser un seuil critique. Et Orange Bank vise 200 000 nouveaux clients par an. Elle se projette donc sur un temps long.
Alors parlons de la banque en ligne. Est-ce que le secteur bancaire traditionnel n'est pas aujourd'hui condamné au moins à terme ?
Non, condamné sûrement pas. En revanche, le secteur est secoué, oui, parce que l'arrivée de ces nouveaux banques montre qu'une offre, une autre offre est possible, qu'elle peut être moins chère, s'adapter à l'évolution des mœurs, notamment la mobilité, répondre aux besoins d'avoir un conseil en dehors des heures habituelles de bureau. Avec leurs offres, ces néobanques mettent en lumière le manque d'innovation du secteur traditionnel dans la banque de détail et c'est ce qui oblige d'ailleurs cette concurrence, ce secteur à bouger dernièrement. Cependant, pour les banques installées, non, il n'y a pas de menace à court terme. Ces néobanques représentent à peine 5% du marché et en France, la mobilité bancaire est faible en dépit des changements de loi qui ont facilité l'attrition. C'est comme ça qu'on appelle le fait de changer de banque l'attrition. Alors d'après les études qualitatives, les Français changent de banque parce qu'ils ont obtenu un crédit bancaire. C'est le premier motif pour changer de banque. La facilitation de la gestion du compte n'arrive qu'en dernier. De plus, ces néobanques ne proposent pas les mêmes services exactement que les banques traditionnelles. Orange Bank, par exemple, pour le moment, ne propose pas de crédit immobilier. Alors on estime que ces néobanques seront davantage peut-être des banques de complément, pas forcément des banques principales. Beaucoup d'entre elles n'ont d'ailleurs pas cette volonté d'être des banques principales. On va donc aussi potentiellement vers une fragmentation du secteur bancaire. Pour tel service chez telle banque, pour telle autre, j'en ai une autre, ma banque sur mobile, etc. Ce qui va encore compliquer le rôle des régulateurs.
Voilà, une dernière question peut-être Marie, parce que cette tendance à la diversification, on la voit un peu partout. Est-ce que c'est une tendance lourde dans les évolutions des groupes? C'est-à-dire que tout le monde fait tout finalement.
Mais pour Orange, en fait, si on part de ce principe, on ne peut pas vraiment analyser ce cas sous cette perspective. Si Orange ajoute la gestion de l'argent et du crédit à ses activités, mais comme d'autres l'ont fait avant, les assureurs, les vendeurs de voitures, les grands magasins, c'est un, parce qu'elle estime qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite, et deux aussi parce qu'elle a en interne les compétences en développement informatique qui lui ont permis de proposer une application bancaire mobile nouvelle. Donc il y a une complémentarité quand même avec ses activités, et trois aussi parce qu'elle estime que ça va être rentable. Rendez-vous donc dans 10 ans pour voir si Orange Bank y arrive, car la plupart des banques en ligne n'y arrivent toujours pas.
Voilà, pas d'attrition radiophonique, donc d'ici là, rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup Marie Bienneau.
À New York, au lendemain de l'attentat qui a fait 8 morts et 12 blessés, Donald Trump dénonce une politique migratoire laxiste. Il réclame sur son compte Twitter que le suspect se voit infliger la peine de mort.
Et lors des interrogatoires à l'hôpital, ce suspect n'a montré aucun regret, se disant même satisfait de ce qu'il avait fait. La police annonce avoir hier soir retrouvé un autre Ouzbék pour lequel elle avait émis un avis de recherche. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'attentat d'avant-hier? Marco Volter en direct de New York.
Eh bien, effectivement, on a vu hier soir apparaître la photo d'un deuxième homme, également un Ouzbék, une coupe au bol, une barbe mi-longue. Son nom, c'est Mukhamadzouar Kadyrov. Il a 32 ans. On a ensuite appris que le FBI l'avait localisé dans la soirée dans le New Jersey, mais on ne sait toujours pas pourquoi les enquêteurs s'intéressent à lui. En revanche, on en sait bien davantage désormais sur le conducteur de la camionnette. Saifullah Saipov a parlé depuis son lit d'hôpital. Hier, il a expliqué aux enquêteurs qu'il cherchait à tuer le plus de personnes possible. C'est pour ça qu'il a choisi le soir d'Halloween, sachant que les rues allaient être bondées. Il avait d'ailleurs l'intention de poursuivre son carnage s'il n'avait pas percuté le bus scolaire qui a immobilisé son véhicule. D'après le FBI, l'un de ses téléphones portables contenait près d'une centaine de vidéos, 4000 images de propagande de l'État islamique. Toujours selon le document de plainte qui a été transmis à la justice, Saifullah Saipov a dit qu'il préparait cette attaque depuis un an. Il y a 2 mois, il a décidé de louer un camion bélier pour, toujours je cite, faire un maximum de victimes. L'homme de 29 ans a dit être satisfait de son acte. Il a demandé qu'on accroche un drapeau de l'État islamique dans sa chambre d'hôpital. Et c'est cet épisode que Donald Trump a relayé dans son dernier tweet de la soirée en appelant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, directement à la peine capitale. Je cite « He should get death penalty ». Il mérite la peine de mort.
Marco Volter, merci beaucoup, donc en direct de New York. C'est le verdict aujourd'hui dans le procès du frère de Mohamed Merah, comme dans tous les procès d'assises. La parole a été donnée ce matin en conclusion aux accusés, Abdelkader Merah notamment, qui a de nouveau clamé son innocence. Je redis que je n'ai rien à voir avec les assassinats commis par mon frère. C'est ce qu'il a déclaré dans le box et vous étiez évidemment à cette dernière séance, Florence Turme.
Oui, une dernière fois, les accusés se lèvent à la demande du président. Monsieur Malki, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Feta Malki, l'oublié du procès, celui qui a fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah, contre qui l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle. Il a très peu parlé durant ces 4 semaines et demie d'audience. On l'a interrogé plutôt sur son passé de délinquant, de receleur, et il se lance avec une émotion parfois fébrile. Je voudrais dire aux familles, j'ai entendu leur désolation. Je compatis avec leurs douleurs. Leurs témoignages m'ont touché au plus profond de mon âme. Je suis navrée, désolée de ce que j'ai pu faire. À aucun moment je n'ai imaginé que Mohamed allait commettre de telles atrocités et je m'en voudrais pour tout le restant de mes jours. On a pu dire que je n'ai pas d'émotion, mais au fond de moi, mon cœur pleure. Dans la salle, les familles des victimes le fixent avec intensité, l'écoutent avec attention. Feta Malki poursuit. J'ai été traité comme un terroriste, un tueur d'enfants. Je ne peux pas l'accepter, je demande pardon et ce pardon est sincère. Abdelkader Merah se lève à son tour, visage impénétrable, même ton neutre que tout au long du procès. Je dis et je répète que je n'ai rien à voir avec les assassinats commis par mon frère. Dans la salle, une voix fuse, c'est pas vrai. Éric Dupond-Moretti, l'avocat, tape du poing sur la table. Abdelkader Merah se fige. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le président. Il est 10h, la cour se retire pour délibérer. Elle va devoir se prononcer sur 2 accusations principales, la complicité d'assassinat mise à mal pénale par la défense d'Abdelkader Merah, qui peut lui valoir la réclusion criminelle à perpétuité, et l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui vise les deux hommes, crime passible de 20 ans de réclusion. Au total, les 5 magistrats professionnels vont devoir répondre à plus de 80 questions et motiver leur décision, qui restera toutefois fondée sur leur intime conviction.
Merci Florence Thiam, et c'est pour ça que le verdict n'est pas attendu avant la fin de l'après-midi tout à l'heure.
Carles Puigdemont, le président destitué de l'exécutif régional catalan, se trouve toujours ce matin à Bruxelles. Son avocat avait fait savoir hier qu'il ne répondrait pas à la convocation de la justice espagnole.
Oui, en revanche, il y a plusieurs autres dirigeants séparatistes de Catalogne qui se sont présentés au siège de l'audience nationale, la Haute Cour de justice, donc, pour y répondre de ces accusations, rébellion, sédition, détournement de fonds publics. Marie-Hélène Ballesteros, bonjour.
Bonjour.
À l'instant, on apprend que le parquet demande la prison pour 8 membres du gouvernement catalan destitué.
C'est bien ça, on vient juste de l'apprendre à l'instant. En fait, les auditions ont fini il y a une vingtaine de minutes à l'audience nationale à Madrid. Selon la presse espagnole, cela est allé très vite, car les anciens ministres de l'exécutif catalan déchus ont décidé de ne répondre qu'aux questions de leurs avocats. À l'exception de Santivila, il s'agit de l'ancien ministre des entreprises catalan qui avait décidé de démissionner juste avant la proclamation de la déclaration unilatérale d'indépendance. Modéré et favorable au dialogue et à la convocation d'élections, eh bien Santivila avait quitté le navire. Aujourd'hui, il est apparu d'ailleurs tout seul à l'audience nationale et il n'a pas été applaudi par les indépendantistes catalans qui s'étaient donné rendez-vous ici. Et en plus, Santivila a choisi un avocat différent. Et contrairement à ses anciens camarades du gouvernement catalan déchu, il a répondu longuement aux questions de la juge Lamela de l'audience nationale. Le journal La Vanguardia insiste d'ailleurs sur la solitude de Santivila, jadis très proche de Carles Puigdemont. C'est d'ailleurs le seul qui a échappé justement à cette demande du parquet madrilène, du parquet espagnol, qui a décidé, comme vous le disiez, de demander la prison inconditionnelle pour tous les anciens membres du gouvernement catalan, sauf Santivila. Il y avait un autre volet judiciaire aujourd'hui à Madrid, du côté de la Cour suprême, juste à quelques mètres de l'audience nationale. La présidente du Parlement catalan démise de ses fonctions et les 5 membres du bureau des présidents du Parlement devaient comparaître donc devant la Cour suprême. Ils ont tous répondu à l'appel. Par contre, à la demande des avocats, le juge a accepté de reporter l'audition à la semaine prochaine, car les avocats ont affirmé ne pas avoir eu le temps de préparer la comparution de leurs clients, car ils n'ont reçu les citations à comparaître qu'hier matin. L'audition a donc été ajournée jusqu'au 9 novembre, mais la présidente Forcadell et les 5 députés ont été placés, eux, sous surveillance policière. C'est une sorte de représailles, car Puigdemont ne s'est pas présenté ce matin.
Alors justement, est-ce qu'on a des nouvelles de Puigdemont, puisque le président du tribunal constitutionnel déclarait qu'il serait normal qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il ne se présentait pas devant les juges, ce qui est donc le cas ce matin? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à ce mandat, Marie-Hélène?
Eh bien, on devrait s'attendre, comme vous le dites, eh bien, justement, aux foudres de la justice espagnole qui devrait demander l'arrestation de Puigdemont et aussi des 4 ministres qui sont restés avec lui en Belgique. Alors, pour l'instant, on ne sait pas, justement, quand est-ce que la justice espagnole va demander leur arrestation et aussi délivrer ce mandat d'arrêt européen. Mais en tout cas, on l'attend assez rapidement.
Marie-Hélène Ballesteros, merci, en direct de Madrid.
La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi se rend pour la première fois aujourd'hui en visite dans la région frontalière d'où plus de 600 000 membres de la communauté Rohingya sont passés au Bangladesh depuis 2 mois.
Et oui, c'est là où l'armée birmane est accusée par les Nations Unies d'épuration ethnique contre cette minorité musulmane. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors finalement, quel est le but de la visite de la dirigeante birmane dans cette région?
Bien, vous vous souvenez, Aung San Suu Kyi a été très critiquée à l'étranger pour ne pas avoir eu un mot contre les exactions dont les militaires birmans se rendaient coupables. Alors même que se multipliaient ces accusations que vous rappeliez de nettoyage ethnique, la dirigeante birmane avait même dans sa toute première déclaration publique minoré ces violences visant les Rohingyas, accusant les médias d'exagération. Alors c'est un déplacement très rapide, hein, une journée à peine, qui devait être l'occasion de se rendre compte de la situation sur place, du moins dans les 3 villes où Aung San Suu Kyi avait prévu de se rendre. Les Rohingyas, vous le savez, sont parmi les minorités les plus persécutées au monde, apatrides depuis 1982, victimes de discrimination, sans papiers, ni accès au marché du travail ou aux services publics, que ce soit les hôpitaux ou les écoles. Des habitants qui avaient été joints avant ce déplacement, joints au téléphone par l'agence France Presse, comptaient rappeler en Aung San Suu Kyi que les Rohingyas vivent en Birmanie pourtant depuis des générations. Mais difficile de savoir quels échanges la prix Nobel de la paix aura réellement pu avoir. Sa visite a été annoncée au tout dernier moment. Elle s'est déroulée sous très haute sécurité. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'Aung San Suu Kyi aurait fait stopper son convoi sur une route où s'étaient rassemblés des habitants de différentes communautés, qu'elle leur aurait dit qu'il fallait vivre en paix et que le gouvernement serait là pour les aider. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Elle n'a fait aucune déclaration publique. Aung San Suu Kyi avait promis que les réfugiés qui pourraient prouver qu'ils habitent, qu'ils ont un domicile en Birmanie, seraient autorisés à rentrer, mais outre la difficulté de pouvoir le faire quand on n'a aucun droit, de nombreux villages ont été totalement incendiés par l'armée birmane et tout semble avoir été pensé pour rendre le retour des réfugiés impossible. D'ailleurs, ils continuent à fuir. Hier encore, ce sont quelques 4000 Rohingyas qui ont franchi le fleuve séparant la Birmanie du Bangladesh pour se réfugier dans des camps déjà surpeuplés dans une situation humanitaire catastrophique. Alors, Aung San Suu Kyi dit qu'elle voudrait favoriser le développement économique de cet état de Rakhine. C'est l'un des plus misérables du pays. Elle s'est d'ailleurs pour cette visite entourée d'hommes d'affaires, mais les organisations humanitaires, elles rappellent qu'avant ce développement économique, elles qui n'ont toujours pas accès à la zone, hormis la Croix-Rouge, on parle d'urgence humanitaire pour des milliers de personnes déplacées et démunies de tout, sans eau ni nourriture.
Merci Marie-Pierre Véraud. La première ministre britannique Theresa May reçoit à Londres en ce moment son homologue israélien Benjamin Netanyahou pour le centenaire de la déclaration Balfour, du nom donc du Britannique Arthur Balfour qui a ouvert la voie à la création de l'État d'Israël. Dans ce texte qui a été publié donc le 2 novembre 1917, le gouvernement britannique considérait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Il est 12h46, retour en France avec le Conseil des ministres ce matin. La supertaxe de l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, selon le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, elle va concerner donc 300 grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros. Des entreprises qui verront donc leur taux d'imposition augmenter de 5 points à 38% et même de 12 à 45% au-delà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un plafonnement tout de même de 300 millions qui aurait été prévu pour en atténuer l'impact sur les plus grands groupes. En tout cas, on attend encore des précisions exactement sur le texte adopté à l'instant. Toujours en conseil, autre adoption, celle de nouvelles règles pour l'octroi de la Légion d'honneur. C'est, dit-on, un symbole auquel tient beaucoup le chef de l'État qui entend donc revaloriser cette distinction. Ça va se traduire donc par un retour au seul critère d'attribution, donc le mérite, et par la force des choses, Antoine Marette, une réduction sensible du nombre de décorations qui vont être distribuées.
Et cela a commencé dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Lors de la promotion du 14 juillet, il n'a retenu que 101 noms, alors que 600 dossiers lui avaient été soumis essentiellement par les ministres. Car c'est le chef de l'État, en qualité de grand maître de l'ordre, qui décide au final qui en est ou pas. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui est à l'origine de cette institution en 1802. Napoléon Bonaparte souhaitait officiellement récompenser les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. Mais rapidement, cette distinction s'apparente davantage à une forme d'aristocratie. D'ailleurs, Napoléon déclare lui-même « On appelle cela des hochets, et bien c'est avec des hochets qu'on mène des hommes ». Et certains chefs d'État vont user de ces hochets sans modération. Le record revient à Valéry Giscard d'Estaing, 4600 décorations par an sous son septennat. D'autres vont avoir une vision très large de ce qu'est un service éminent rendu à la nation. On verra par exemple sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Didier Barbelivien, Michel Leeb, Stoney Chardin ou encore Daniela Lombroso accéder à cette distinction méritocratique. Bref, la Légion d'honneur, en perdant de sa rareté, semble avoir perdu un peu de sa valeur, d'où cette volonté d'Emmanuel Macron d'imposer de nouvelles modalités pour son attribution. Selon le Figaro, il attend désormais des dossiers fondés exclusivement sur le mérite, avec une action inscrite dans la durée au service de l'intérêt général.
Merci beaucoup Antoine Marette. On salue notre invité, donc notre confrère Jean-Dominique Merchet. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre intitulé « Macron Bonaparte » publié chez Stock. C'est pourquoi on vous demande de venir aujourd'hui pour commenter d'abord cette information. L'ordre de la Légion d'honneur, Antoine Marette le rappelait, créé donc par Bonaparte. Nous sommes en 1802. Est-ce que vous diriez que l'état d'esprit qui préside à sa revalorisation aujourd'hui correspond à celui qui avait accompagné sa création en 1802?
Oui, il y avait chez Napoléon Bonaparte la volonté de recréer de distinguer une élite au sein de la nation, une élite à la fois militaire et civile. Et effectivement, je pense que ça s'inscrit dans cette vision assez monarchique du pouvoir qui avait été très contestée lorsque la Légion d'honneur a été créée. Les libéraux de l'époque et la gauche de l'époque, de Benjamin Constant aux Jacobins, le contestaient, disaient « Non, il ne faut pas faire ça, on rétablit l'ancien régime ». En même temps, comme on vient de le rappeler, Napoléon n'était pas du tout, savait très bien ce qu'il faisait. Il parlait de hochet. Donc, effectivement.
Alors, vous pensez que ça existe aussi dans l'esprit d'Emmanuel Macron?
Alors, Chez Emmanuel Macron, il y a sans doute effectivement la volonté d'en finir avec ce qu'il a vécu à l'Élysée à l'époque de François Hollande, c'est-à-dire cette cohorte infinie de cérémonies, de décorations, on reçoit tous les amis, on fait un discours qui ressemble un peu à ce qui se passe au Conseil général.
Il n'en a fait qu'une, je crois.
Il estime que la présidence de la République, chef de l'État de la France, ce n'est pas président d'un Conseil général ou des corps, les présidents d'associations d'anciens combattants. Ce n'est pas sa vision du pouvoir.
Dans votre livre, vous expliquez que Macron, donc comme Bonaparte, veut remplacer le vide qui est laissé par l'absence de roi. Est-ce que c'est une donnée qui permet de comprendre sa politique, d'avoir une coupe comme ça, une clé en tout cas de compréhension ?
Oui, je crois vraiment que c'est une des clés d'Emmanuel Macron, c'est sa conception vraiment monarchique du pouvoir. Il le dit lui-même, il le dit dans une interview du magazine Le 1, en disant « il y a un vide en France depuis, un vide politique en France depuis qu'on a coupé la tête du roi, on ne l'a pas remplacé ». Et clairement, il y a eu Napoléon, il y a eu De Gaulle, et il laisse entendre qu'il peut y avoir Emmanuel Macron.
Mais le roi, ça veut dire que est-ce que ça peut porter atteinte éventuellement au principe démocratique ? Je vous dis ça parce que je vous posais la question à Dominique Schnapper dans un instant.
Non, je ne crois pas. Je crois que Emmanuel Macron est un démocrate. Il n'est pas du tout dans une vision d'un pouvoir dictatorial, autoritaire, de droit divin. Absolument pas. Mais il a cette idée que la France est fondamentalement une monarchie. Le départ de sa campagne, au fond, c'est cette cérémonie de Jeanne d'Arc du 8 mai 2016 où il est invité. Et là, on sent, il y a quelque chose qui vibre dans l'air, il y a quelque chose de royal qui vibre dans l'air. Il incarne ça. Il est imprégné de cette culture. Évidemment, il ne se mettra pas une couronne impériale ou royale sur la tête.
Rassurez-nous, il n'y aura pas une grande peinture de David sur ce couronnement. Jean-Dominique Percher, vous restez avec nous. Un petit mot de Dominique Schnapper, donc, comme je le disais, qui est l'invité de la dernière partie de la Grande Table, pour son livre de la démocratie en France. Comment vous trouvez le régime aujourd'hui, Dominique Schnapper ?
Je vais poursuivre ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est vrai que nous sommes dans une monarchie républicaine et c'est l'esprit de la Constitution de la Ve République. C'est l'idée de la monarchie élective ou de la monarchie républicaine. Quant à la Légion d'honneur, c'est un des symboles de la méritocratie républicaine, c'est-à-dire la manière de légitimer des différences sociales dans un pays qui se donne l'égalité pour principe. Alors, comme principe et comme passion. Et donc, la méritocratie républicaine est la façon de conjuguer l'élite nécessaire et le principe d'égalité. Mais c'est toujours difficile de définir le mérite.
Effectivement, Dominique Schnapper, vous avez en tout cas le mérite d'avoir des réponses concises. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table et on va continuer de parler de cette question de mérite d'ailleurs peut-être, Raphaël Bourgois.
Oui, parce que c'est une information qui a été révélée en exclusivité ce matin par France Culture, la déclaration d'intérêt complète remise par la ministre de la Défense, Florence Parly, à la haute autorité de la transparence de la vie publique.
Oui, le mois dernier, l'hebdomadaire Marianne, on s'en souvient, on en a parlé dans cette édition, révélait qu'elle avait touché, donc Madame Parly, près de 52 000 euros par mois début 2017. En travaillant à la SNCF. Madame Parly affirme qu'elle a exercé des responsabilités, qu'elle a perçu des rémunérations qui correspondaient à ses responsabilités. Elle ne dit pas à ses mérites. Ces rémunérations, ce n'est pas moi qui les ai décidées, dit-elle pour sa défense. C'est la politique de l'entreprise. Rien d'inégal, donc, sans doute. Mais ça fait quand même s'interroger à l'heure où le gouvernement coupe dans les dépenses publiques et que l'entreprise ferroviaire a une dette de 44 milliards d'euros. Ludovic Piétenu, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Effectivement, tout dépend de la manière dont on regarde cette situation.
Et avec un président, on peut ajouter, qui a mené une partie de sa campagne sur le thème de la moralisation du monde politique, qui s'est d'ailleurs empressé de faire voter sa majorité dès le début de l'été sur ce thème, comme premier texte de loi. Et puis un premier ministre aussi, qui avait fixé comme ligne de conduite à ses ministres l'exemplarité, avec les mots de cette circulaire du mois de mai. Si l'État doit être ferme et fort, ses serviteurs doivent être sobres et dignes. Il en va naturellement ainsi pour les membres du gouvernement. Fin de citation. Il est vrai que ces salaires mirobolants perçus par l'actuel ministre des Armées pour ses activités passées de cadre dans des entreprises public a de quoi surprendre. Alors dans l'armée, où les conditions de travail des militaires ne sont pas faciles, ils sont, par les temps qui courent, sursollicités, on le sait. Alors quel effet peut avoir ce genre de révélation sur les revenus passés de leurs ministres ? Est-ce que c'est de nature à entacher leur crédibilité, enfin sa crédibilité plutôt, sa légitimité, son autorité ? On pourra poser la question à notre invité Jean-Dominique Mercher. Précisons qu'elle est aujourd'hui rémunérée, Florence Parly, comme tous les ministres du gouvernement, autour de 8 500 euros net par mois, ce qui fait avait quand même lourdement chuté son train de vie, et la moyenne mensuelle donc de ces 78 derniers mois, de ces 6 dernières années et demie qui apparaissent dans cette déclaration, 31 000 euros net par mois. 31 718 euros net par mois pour être précis.
Ludovic Piétenu, merci. Effectivement, Jean-Dominique, merci. Un dernier mot.
Dans un pays où le salaire médian est inférieur à 2000 euros, ça choque, clairement. En même temps, elle a accepté, elle montre qu'elle a un attachement au bien public et au service public en acceptant de voir ses revenus divisés par 5 ou c'est par 4 ou 5. Donc, je pense que ça ne lui sera pas reproché cette fois-ci, puisqu'elle fait un sacrifice très net de revenus.
Vous êtes spécialiste des questions de défense. Absolument. Ça peut la gêner éventuellement dans les milieux militaires, ce passé.
Très honnêtement, je pense que ça va faire sourire. Les gens vont dire, il vaut mieux travailler à la SNCF que d'être ministre des armées. Très clairement, la preuve est faite, c'est que ministre, c'est plutôt pas une situation très enviable par rapport à celle d'un directeur d'un grand service de transport public.
Du point de vue financier.
Pour le service de la patrie et les mérites des uns et des autres, là. Le débat est lancé.
Jean-Dominique Merchet, merci beaucoup. Macron, Bonaparte, c'est le titre de votre livre publié chez Stock. Un petit mot du temps pour terminer. Très nuageux au nord et sur une partie sud-est. Température de 12 à 23 degrés. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal, 18h sur France Culture avec Anne Fauquemberg.